Radio Okapi, un partenariat entre la mission des Nations Unies pour la stabilisation en République démocratique du Congo et la Fondation IRONDEL. Avec le soutien de OCISA et des gouvernements de Suisse, de Suède, de Grande-Bretagne, d'Allemagne, de Belgique et des Pays-Bas.
Fatima Foucault continue à assurer la réalisation de cette émission mise en onde par Alain Goy sous la coordination de Marcel Gombombala et J.R. Mungembo et au micro. Nous avons Bruno Kitsiaka dans ce studio pour parler de comment prévenir les maladies et les ravageurs des cultures maraîchères. Bruno, la première question, quand on parle de la culture maraîchère, on peut sous-entendre quoi?
Les cultures maraîchères, en un mot, c'est sauf ici qui nous donne des légumes. De manière générale.
Oui, vous en parlez bien sur le micro. Oui, donc d'une manière générale, vous dites?
Je disais que les cultures maraîchères, ce sont celles qui nous donnent des légumes de consommation, mais aussi des légumes fruits.
Aussi des légumes fruits. Aujourd'hui, nous parlons de comment prévenir les maladies et ravageurs des cultures. Et quels sont les principaux ravageurs des cultures maraîchères?
Bon, il y a plusieurs ravageurs des cultures maraîchères. Parmi ces ravageurs, nous pouvons citer les insectes, nous pouvons citer les acariens, nous pouvons citer les nématodes, nous pouvons citer des mollusques, même des rats. Et même les mauvaises herbes constituent aussi des menaces pour les cultures maraîchères. En dehors de ça, il y a aussi des maladies. Là, ce sont des ravageurs, mais nous avons aussi des maladies. Dans les maladies, nous pouvons citer des maladies dues aux champignons, des maladies dues aux virus, que nous appelons les viroses, et des maladies dues aux bactéries, que nous appelons les bactérioses.
Après, toutes les maladies sont-elles saisonnières?
Oui, elles sont saisonnières. C'est l'objet même de l'émission. Tout dépend, comme on disait l'autre fois, de l'environnement dans lequel nous allons mettre notre plante. C'est des techniques que nous appelons des techniques de production et protection intégrée. C'est un ensemble de stratégies, de pratiques que nous mettons en exergue pour réduire sans s'empêcher l'incidence des ravageurs et des maladies. Donc il est question de mettre ces ravageurs dans de mauvaises conditions qui ne leur permettent pas d'attaquer nos cultures. Voilà, c'est un peu à...
Mais parce que vous avez parlé de maladies saisonnières, alors est-ce que vous pouvez nous situer, nous savons que les années culturales chez nous, nous avons au moins trois saisons, non quatre, la saison A, B, C, non trois saisons, la saison A et la saison B et la saison C. Alors, par rapport aux maladies, si nous prenons l'exemple des amarantes, quelles sont les maladies qui attaquent les amarantes? C'est très consommé à l'herbacée. Que nous appelons les bitécotécos.
Oui. D'une manière générale, avant de parler des amarantes en spécial, d'une manière générale, nous savons que pendant la saison de pluie, il y a trop d'humidité et les maladies fongiques, dues aux champignons, se développent facilement. Alors, pendant cette période, il faut mettre en place des techniques qui permettent à réduire l'incidence de ces champignons sur les cultures. C'est comme en saison sèche aussi, il y a d'autres insectes qui pullulent. Parce que pendant la saison sèche, ils trouvent de bons moments, des conditions favorables pour se développer, faire leur cycle de reproduction facilement. Et là aussi, il faut mettre en pratique des techniques, des pratiques culturelles que nous devons mettre en exergue pour essayer de réduire l'incidence ou si pas empêcher totalement l'apparition de ces insectes ou de toutes ces maladies sur nos cultures. Donc, comme tu dis, ça dépend
d'une saison à une autre. Dans la saison de pluie, il faut des bonnes pratiques aussi pour éviter, comme vous l'avez dit, des maladies fongiques.
Oui.
Et puis la saison sèche.
Et c'est plus des insectes, plus des insectes, un peu moins des maladies fongiques, mais si on ne gère pas bien aussi certains aspects, on peut aussi arriver aux maladies fongiques par la sauce. Pour revenir...
Oui, parce qu'aujourd'hui, si nous prenons... nous allons à Angélie Brasserie, par exemple. On prend le cas de Kinshasa. Mm-hmm. Angélie Brasserie, c'est un site qui est reconnu aujourd'hui, un site maraîcher, où il y a des maraîchers et des maraîchères qui s'y emploient à longueur de journée. Dans bien des cas, le produit s'est mis... C'est autour des légumes. Et les amarantes, qui sont très consommées en République démocratique du Congo, et surtout à Kinshasa, proviennent de l'île de Brasserie. Alors, aujourd'hui, nous prenons cet exemple-là, les amarantes. Quelles sont les maladies qui attaquent les amarantes?
Bon, les amarantes, généralement, ils n'ont pas trop de problèmes. Hein. Ils sont pas, ce sont des légumes, comment dirais-je, locaux, hein, qui n'ont pas beaucoup trop de problèmes par rapport aux légumes exotiques comme les tomates, les aubergines. Mais ça, des scènes, il y a des insectes surtout. Hein. Il y a des insectes, des criquets qui perforent le feuille des amarantes, et ça constitue une menace. Et il y a aussi des maladies de carence. Bon, ça, c'est un problème de la préparation du sol. Souvent, si le sol n'est pas bien préparé, vous voyez un feuillage qui jaunit, vous pensez que vous avez affaire à une maladie, mais en fait, c'est un problème de carence simplement. Ça signifie que le sol n'a pas été bien amendé. Donc, généralement, ce sont les insectes qui essaient de percorer les feuilles des amarantes, et avec un peu de pesticides, on peut facilement les contrôler.
Donc, c'est à tort que nous parlons de maladies quand nous voyons le feuillage jaunir, parce que généralement nos mamans, pour acheter des légumes et des arômes, on s'en battait pour les uns là-bas. Et c'était beaucoup de monkey, et puis j'ai mis jaune.
Oui, quand c'est jaune, cela ne veut pas dire nécessairement que c'est une maladie. Je vous dis, souvent, pour le cas des amarantes, en tout cas, quand le sol est bien et riche, on a apporté un peu d'engrais, et si on les verts, le but est que il est bon. Mais souvent, c'est des carences qui font que vous avez un feuillage jaune, vous pensez à une maladie, alors que ce n'est pas une maladie, mais c'est un problème de carence certaine.
Alors parlons des tomates, parce que j'en reviens encore à une brasserie, il y a plein de tomates, et Kinshasa consomme toutes ces tomates-là qui proviennent d'une brasserie, même à Kassangoul ou Kassanto. Oui. Aujourd'hui, c'est vrai, il y a aussi des maladies qui attaquent les tomates.
Oui, les tomates, là, c'est là où il y a vraiment un problème, il y a un problème. Alors, parmi ces techniques-là, il y a plusieurs techniques, peut-être qu'on ne sera pas terminé en cette demi-heure, mais je vous dirais, dans un premier temps, au départ, il faut d'abord avoir les bonnes semences. Il faut vous poser la question de savoir quelles semences vous allez mettre sur terre pour produire votre tomate. Il est déconseillé, il est vraiment totalement déconseillé de produire des semences localement. C'est-à-dire, vous avez planté, vous avez acheté la bonne semence, vous avez produit. Il ne faut pas récupérer le fruit, l'excès de semences et dire que non, voilà, j'ai une autre semence pour la prochaine saison. Ça, c'est vraiment prohibé. Il faut faire un bon choix de semences, choisir des semences qui résistent bien aux maladies. En tout cas, la technologie a sensiblement évolué. Quand vous allez sur le marché, vous trouvez sur les emballages, on vous dit que telle variété résiste à telle période, à telle maladie. Et généralement, ces gens-là, en Europe, c'est certifié, on ne peut pas faire d'autre que cela. Alors, il faut d'abord faire un bon choix de semences. Mais quand vous avez bien choisi votre semence, elle ne suffit pas. Pour la tomate, par exemple, il faut bien respecter les écartements. Ça, c'est très important. Je vous ai dit tout à l'heure qu'en faisant le fruit, il pleut beaucoup. Nous devons mettre les écartements s'il faut. Par exemple, pour la tomate, c'est plus facile de faire 50 cm par 50 cm parce que, en faisant le fruit, il pleut beaucoup, comme je l'avais dit l'autre fois. Et il faut un peu de l'espace, il faut écarter le plan afin que les rayons solaires pénètrent bien dans la touffe et de cette façon-là qu'on ne crée pas assez d'humidité. Mais pour la tomate aussi, l'autre pratique pour éviter, c'est quoi? C'est qu'il faut tailler. Il faut tailler, faire la taille de la tomate. Ça aussi, ça vous donne d'abord des tomates de belle grosseur, une bonne forme, appréciée par les consommateurs, mais aussi ça facilite, comme je disais, la circulation de l'air et de la lumière dans la touffe. Ça, c'est bon pour la tomate. Quelque chose aussi qu'on peut faire pour la tomate, c'est le tuteurage. Le tuteurage, c'est mettre un pied pour soutenir la plante. Malheureusement, ce que nous faisons, nous, on répique d'abord, et puis après, on vient avec un tuteur qu'on essaie d'enfoncer dans le sol. Parfois, on est obligé de blesser les racines. Et quand nous blessons les racines, c'est vraiment des portes d'entrée pour des bactéries, pour des champignons, pour des viroses. Nous conseillons parmi ces techniques pour éviter toutes ces maladies, nous conseillons de mettre d'abord le tuteur et après répliquer.
De toute façon, c'est trop demandé à une maman qui a un potager ou qui veut peut-être avoir un petit truc, un petit son de fortune. D'ailleurs, c'est derrière sa maison. Toutes ces techniques, toutes ces pratiques, c'est vraiment trop demandé.
Oui, c'est trop demandé, mais c'est mieux parce que ça vous évite de faire trop de dépenses. Quand vous faites ça, vous avez moins de maladies et vous économisez un peu d'argent.
Non, maintenant, c'est monnaie courante. Vous avez, quand on vide de l'électrosceptique, juste l'espace là, on peut mettre juste des semences, et puis bon, finalement, on a des tomates, on a des aubergines, et on a même des légumes.
Oui, mais il faut voir maintenant, sur quel objectif vous faites vos légumes. C'est quand vous les faites derrière la maison pour la consommation.
Oui, il y a plein de vitamines, surtout quand ce sont des légumes plantés à un endroit où on a versé l'excrément, voilà, donc le saleté.
Oui,
c'est
bien. Là, il y a un problème qui est bien résolu, puisque c'est toute la matière organique qui est disponible. Il y a autre facteur aussi que vous devez contrôler. Mais quand vous faites des pépinières pour des tomates, absolument, il faut les protéger aussi. Parce que, dès le départ, si votre germoire, votre plan dans les germoires n'est pas bien développé, à l'arrivée, vous ne pouvez pas avoir une belle tomate. Si au départ, vous n'avez pas bien conduit votre germoire. Donc, il faut bien conduire votre germoire. Nous conseillons de protéger votre germoire par des toiles moustiquaires. Avec des toiles moustiquaires, vous évitez que les insectes, hein, les mouches et tout ça attaquent vos cultures. De cette façon-là, vous avez des plants sains. Parce qu'il faut amener sur votre plan de votre terrain de plantation un plant sain et même de maladie. Il est bien développé, il est bien formé, et c'est ce plan-là qui pourra vous donner à l'arrivée une très bonne récolte. Au départ, en germoire, si le plant est malin, il n'est pas bien, il est attaqué au départ, même si vous les plantez,
ça ne sera pas très bon.
Voilà.
081-890-63-77, c'est pour les appels, et le 081-070-50 pour les SMS.
Chaque samedi à 8h30, Radio Tapis vous offre le survol de toute l'actualité économique de la semaine dans Panorama économique. La vie des marchés, le développement des entreprises, l'impact des décisions diverses sur la vie économique, c'est Panorama économique. Chaque samedi à 8h30, Panorama économique sur Radio Tapis pour anticiper les mauvaises surprises et profiter de bonnes occasions.
Bruno Kitsaka, vous êtes expert en horticulture urbaine et périurbaine. Vous nous avez dit qu'il y a certaines maladies qui normalement attaquent les cultures maraîchères. Et ces maladies sont liées aux différentes saisons, tantôt soit dans la saison de pluie et tantôt dans la saison sèche. Mais est-ce qu'on peut prévenir ces maladies?
Oui, c'est exactement ce que nous parlons. Nous pouvons prévenir toutes ces maladies en utilisant des techniques simples. Hein. Aujourd'hui, par exemple, il y a quelque chose de facile que les gens peuvent se déguiser. Un simple sarclage dans votre champ. Hein. Ça évite à ce qu'il y ait des insectes qui viennent de la brousse pour attaquer votre champ de culture. Ça, c'est une technique vraiment simple. Il y a moins de choses qu'on peut faire. Vous savez, nous disons qu'il faut au moins 10 mètres de part et d'autre du champ complètement nettoyé. Comme ça, il y a moins d'incidence des insectes, des ravageurs qui venaient de la brousse pour attaquer vos champs. Si votre champ est envahi par de mauvaises herbes, en tout cas, rassurez-vous que vous aurez toujours des problèmes. Donc ça, c'est des techniques simples. Bon, l'autre technique, c'est simple, respecter, l'autre fois, vous avez posé la question sur la rotation.
Tout à fait.
Il faut respecter la rotation des cultures. Si vous savez que vous allez faire la tomate, essayez un peu de voir qu'est-ce qu'il y avait comme culture. Vous ne pouvez pas mettre, par exemple, la tomate après une autre solanacée comme l'aubergine, comme le poivron, comme le piment, qui sont des cultures qui sont sensibles aux mêmes maladies. Ça signifie quoi? Ça signifie que quand vous avez planté l'aubergine a été attaquée par les acariens, et bien, quand vous enlevez les aubergines, vous mettez la tomate, ces acariens vont se succéder à votre culture de tomate. Donc, il faut respecter vraiment la rotation.
Vous avez dit la semaine dernière, l'idéal aurait été de laisser ce terrain en jachère.
En jachère, par exemple, si vous avez suffisamment de l'espace. Mais malheureusement, vous savez, à Gilles de Brasserie, c'est difficile. Moi, je travaille là-bas avec les mamans, je les
conseille.
Je conseille ça aux mamans. À un moment, on a observé une fatigue du sol, un sol qui a été exploité pendant plus de 30 ans. Les sols sont fatigués, malgré tout ce que vous pouvez, ils ne donnent plus rien. La seule solution, c'est les jachères. Mais les mamans vous disent, mais si nous ne laissons pas les jachères,
comment on va vivre?
Voilà, c'est ça un peu.
Et quand vous laissez un jachère, les opportunistes en profitent, hein, pour venir lotir.
Il y a un problème foncier aussi, mais c'est la meilleure façon. La meilleure façon de laisser un jachère pendant quelques années, le sol se reconstitue. Vous restaurez, comme on dit en termes techniques, vous restaurez votre sol et vous pouvez partir sur...
Vous avez parlé des tomates, vous avez parlé des amarantes, mais on sait que les aubergines sont également très consommées et prisées par la population congolaise. Aujourd'hui, ce sont les mêmes techniques qu'il faut respecter.
Oui, les solanacées, d'une manière générale, les aubergines, les poivrons, les tomates, ils ont presque la même technique, ce sont les mêmes principes que vous devez respecter quand vous voulez faire cette fourniture. Donc, comme je l'avais dit, il faut bien choisir les semences, il faut bien produire de plants, hein, bien conduire vos plants en pépinière, hein, c'est-à-dire bien les entretenir, enlever les mousses, une bonne matière organique, bien arroser, et vous avez surtout bien espacé sur la ligne, parce que souvent quand on fait les germoires, on produit des plants chétifs, ils sont maigres, ils sont géants, ils filent, alors quand vous donnez un peu d'espace, vous avez des plants robustes, hein, qui se développent bien, et quand ils sont sur votre terrain de plantation, rassurez-vous que vous aurez une bonne récolte.
Alors, Jerry Mido de Bandoudou nous appelle. Bonjour, Jerry.
Oui, bonjour.
Votre question?
Oh, Marina, c'est vrai, tout le monde a l'ingala.
Tout le monde a l'ingala.
Bon, la ligne, tout le monde a l'ingala. La tomate en haut, on a déjà combien déjà? Pour la tomate, on a déjà en avant, on a déjà un jar, on a déjà un gimaka. On a déjà un tomate, on a déjà un salé, on a déjà un tomate, on a déjà un forme au berger. On a déjà un tomate, on a déjà un salé. On a première question. Bon, deuxième question. Ma culture à tomate, là, au berger, n'y a pas plus difficile pour la retrouver.
Mais bon, je voudrais peut-être remonter ça autrement parce que par rapport à notre sujet, exactement, la culture est à tomates, la culture est à misusu. Ou après, ils ont plus attaqué dans la maladie, hein, ce qui est la respecter la nullité.
Bon, nous allons répondre peine à l'Inda le Pan de Gonabiso, Jérémy, de Razana Bandoundou. Bon, ma tomate, c'est ma variété belée. En étant ma variété belée, c'est ma tomate, bon, ma bien, en couramment, c'est la tomate pommée, en principe, c'est ma tomate aminée, la quatre fois, c'est ma variété belée, ma caraïbe des Ali, ma marmande des Ali. Ba tomate roma, ils ont un peu moins allongé. À côté de ça, vous appelez la tomate américaine, c'est bien la tomate locale, on va tech la biso na marchewana, ils ont local, ils ont un peu résistant,
ils
ont américaine et collaborant sans trop de problème. Mais c'est un rappel à ma traitement bien parce qu'ils ont risqué, ils ont résistant. Alors, tomate na aubergine, bon, ça dépend, objectif au yolingi. Mais ma tomate ici, moi, c'est 5 à entretien. Ceux qui ont entretenu en moment l'amour, le robot de l'objet, souvent les gens disent que tomate est 5 à moussalamoua mingi. Pourquoi? Parce que, il faut, aussi en otite, il faut kangabasinga, il faut tailler en haut, et, bah, il y a moins de tomate, ça va, déjà, c'est belé, par rapport à ma culture. Mais, en tout cas, tout dépend de l'objectif, au lingo, au atteindre, et à la tomate, et à l'aubergine, et aussi en attaque à entretien malam. Et aussi en attaque, en tout cas, ma pratique qui sera adéquate pour que, comme on a, la production malam.
Dieu merci, Touramé de Magui. Bonjour, Dieu merci.
Oui, bonjour.
Votre question?
Oui, effectivement, il y a planté tomates dans mon jardin. Maintenant, il a dit que les insectes sont jaunis et fruits prématurément.
Voilà, alors Dieu merci, on vous saisit à peine, donc c'est difficile. On peut peut-être vous rappeler pour une meilleure audition. Donc nous revenons à vous, Bruno Kitiaka, expert en horticulture urbaine et périurbaine. C'est vrai, les maladies telles que citées par vous, dues aux champignons, aux virus et à d'autres, ces maladies ne sont pas fatales. Ok, parce que on peut les prévenir. Mais au moment où que c'est arrivé, est-ce possible de les soigner?
Oui, ça c'est il faut les soigner. C'est ce que nous disons. Quand vous avez, c'est ça l'approche de production et processus intégré. Quand vous avez choisi de bonnes semences, quand vous avez mis en pratique, vous avez respecté les pratiques qui sont adéquates. Ça ne dit pas que les maladies arrivent. Ça peut arriver. Alors nous conseillons, parce que nous voulons aussi produire des légumes de qualité. Alors, nous voulons produire des légumes de qualité. Nous disons, avant d'aller avec des produits chimiques classiques, conventionnels, comme on le dit, commençons par des produits chimiques doux. Les produits chimiques doux, ce sont des produits qui ne sont pas très toxiques. Bon, je pouvais ouvrir un paquet pour informer les auditeurs qu'il y a une classification des pesticides selon leur degré de toxicité. Donc, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé, a fait une classification des pesticides selon leur degré de toxicité. Il y a la classe A, il y a la classe B et la classe C. Classe 1, 2, 3, A, B, C, comme vous voulez. Alors, A, c'est des produits qui sont toxiques, généralement qu'on a retirés du marché. B, c'est des produits qui sont moyennement toxiques, qu'on peut utiliser, suivant en respectant bien sûr les normes, comment et les pratiques, comment les principes, comment il faut les utiliser. Et en C, vous avez des produits de pesticides doux. Alors, ce sont des nouveaux produits qui sont actuellement sur le marché, qui ne sont pas trop toxiques. Et c'est comme ça nous disons. Il faut commencer d'abord par ces produits-là. Par ces produits-là, moi je vais vous donner un exemple pour construire par exemple le pisseron, le mousse blanche. Il y a un produit que nous utilisons déjà en Bazangou qui s'appelle Agricole. C'est un produit doux qui n'est pas, même si vous l'avez en face de vous, vous ne sentez pas que vous êtes en face d'un produit, pesticide chimique. Donc, il faut commencer par ces produits-là. Et en dernier recours, si vous avez utilisé toutes les techniques, vous avez mis les pratiques, vous avez fait tout ce que vous pouvez, vous avez utilisé des produits pour des pesticides doux, ça n'a pas marché, à ce moment-là, vous pouvez utiliser des pesticides conventionnels que nous trouvons partout au marché, mais je cite, en respectant les normes, comment il faut les utiliser, en suivant les directives pour une utilisation efficace et surtout sans risque. Tant pour les utilisateurs, mais aussi pour les consommateurs. Donc, il faudra que et les utilisateurs et les consommateurs soient protégés à travers cette pratique de pulvérisation des pesticides qui sont aussi dangereux.
Et après avoir pulvérisé son champ, quel est le délai qui court pour que les insectes réapparaissent encore? Est-ce qu'ils sont vraiment sur une surveillance permanente?
Oui, c'est pour ça que je disais, quand vous faites bien votre pratique, les champs sont très bien entretenus, vous avez moins de chances que les espèces que vous avez éliminées reviennent encore. Donc, c'est pourquoi je dis qu'il faut toujours associer les traitements aux pratiques culturales. Donc, généralement, les fabricants de produits inscrivent sur l'emballage la durée de rémanence. C'est-à-dire, la durée de rémanence, c'est la durée qui sépare la dernière pulvérisation à la récolte. Mais malheureusement, je dois attirer l'attention de beaucoup de producteurs. Souvent, qui ne respectent pas ces dommages, qui ne respectent pas cette durée, et ça constitue vraiment un problème de santé publique. Parce qu'il y en a qui pulvérisent aujourd'hui, demain, quand il a un preneur, il vient, il récolte, et puis, bon, on envoie les produits sur le marché. Et ça, c'est extrêmement dangereux. Donc, il faudra
respecter. Pour la santé, hein.
Pour la santé, je souhaite dire, il faut respecter la durée de rémanence. Hein, comme généralement, c'est 10 jours. Hein, c'est pas
bon. On va revenir, il est temps de rappeler à nos auditeurs qu'ils peuvent intervenir à cette émission en composant les 0-81-890-63-77.
Parce que les problèmes font partie de notre vie au quotidien et que les solutions sont les bâtiments, au Café Service vous met au centre de vos préoccupations et fait le relais avec les autorités compétentes pour trouver une solution. Au Café Service, nous sommes à votre service. De lundi à vendredi, dès 9h, on est tout à ça.
La durée de la rémanence autour des 10 jours, comme vous l'avez dit, est-ce que c'est la même durée, que ce soit pour les tomates, pour les aubergines, pour les amarantes et pour d'autres?
Non, c'est par rapport aux produits. La durée de rémanence, c'est par rapport aux produits utilisés. Et les fabricants, généralement, ont l'obligation de mentionner sur l'étiquette la durée de rémanence. Donc, combien de jours il faut revenir récolter après avoir sécher. Vraiment, ça, il faudrait que.
Quel est le danger qu'on encourt si cette durée n'est pas respectée?
Non, vous allez prendre dans votre. Vous allez consommer des produits avec des traces.
Mais comment les saurons-nous? Comment allons-nous les identifier? Non. Parce qu'il y a une norme qui n'a pas respecté la durée de la rémanence. Au niveau des îles brasseries, ils procèdent déjà.
C'est difficile.
On nous amène ces produits sur le marché.
C'est difficile. Comment vous n'allez pas reconnaître parce que quand vous avez une tomate, même sur le supermarché, vous ne savez pas quel jour Vous savez pas qu'il y a deux jours, on avait traité, on avait épargné le produit, un produit sur cette tomate, c'est difficile. Malheureusement, c'est comme ça que c'est une occasion pour sensibiliser tous ces producteurs vraiment à respecter la durée des rémanences de manière à ne pas intoxiquer tous ces consommateurs qui consomment le produit. Et les guides qui
alors, si on peut revenir encore, parce qu'il y a d'autres personnes qui viennent de nous rejoindre, nous catégorisons, donc il y a des maladies qui attaquent les cultures maraîchères. Ces maladies sont des désordres, parce qu'elles sont saisonnières, comme on l'avait dit. Il y a des maladies qui, normalement, sont observées pendant la saison de pluie. Il y a d'autres, pendant la saison sèche, si vous pouvez nous rappeler des maladies observées pendant la saison de pluie.
Bon, pendant ce repos, j'avais dit de manière générale, c'est des bactéries qui sont causées par des bactéries, et c'est des maladies fongiques qui sont provoquées par des champignons quand il y a un peu trop d'humidité dans les sols. Et en saison sèche, souvent, c'est des insectes qui trouvent de bonnes, comme il ne pleut pas, les cycles. Hein, le cycle de production de ces insectes n'est pas vraiment dérangé. Nous avons remarqué une bestiole qui attaque les choux communs que les gens consomment bien à Kinshasa, en Bazangungu, Plutella, Celestia. Le Plutella, on l'appelle la teigne de crucifère. C'est une bestiole qui attaque seulement en saison sèche. Et ça cause des dégâts énormes. Ça cause vraiment des dégâts énormes. C'est en saison sèche. Et à un moment, nous avons conseillé carrément de ne plus faire les choses en saison sèche. Oh, c'est difficile de demander aux gens de ne pas les faire parce que ça ne vaut pas la peine de faire. Parce qu'il était un peu difficile à contrôler. On a essayé beaucoup de produits et ça n'a pas marché. Donc, il faut tenir compte. Il faut avoir un bon œil, avoir des habitudes.
À l'œil nu comme ça, on ne sait pas identifier les maladies qui attaquent par exemple des choses pour nous. Alors, on en a plein ici à Port-Gaby. Disons à Kinshasa, vous en avez comme ça, 10, 15 bottes, quand vous observez, vous avez difficile à identifier.
Si le produit récolté, vous ne voyez rien, c'est comme je vous l'ai dit, c'est difficile. Si le produit récolté sur le marché, pour vous, c'est un bon produit, vous le consommez sans problème.
Mais quand vous aurez un cas d'intoxication alimentaire.
C'est ça justement, quand je dis, il a été pulvérisé par un produit toxique, et il faut vous dire aussi, il y a des produits qui sont prohibés. Mais qui continue à être utilisé chez nous, dans notre pays. Ça, c'est vraiment grave. C'est des produits qu'on a éliminés de la liste dans d'autres cieux, mais qu'on retrouve curieusement sur le marché dans notre pays.
Nous avons peut-être une liste que vous avez des produits acceptés pour pulvériser la culture maraîchère. Alors, vous allez peut-être indiquer cela aux auditeurs qui aimeraient bien vous contacter. Nous rappelons d'abord vos numéros.
081 521 52 88. Et avec ces numéros, vous pouvez me contacter. Je pourrais vous balancer sur Internet la classification des pesticides selon l'OMS. Là, ça peut vous donner des idées sur les différents produits à utiliser et à ne pas utiliser.
Et des produits à éviter.
Et à éviter, voilà.
Parce que là, ça peut créer des problèmes plus tard.
Des problèmes de santé publique. Oui.
Bruno Kitsiaka, nous rappelons que vous êtes expert en horticulture urbaine et périurbaine. Vous avez été notre invité pour parler de comment prévenir les maladies et les ravages des cultures maraîchères. Nous vous disons merci et à très bientôt.
Merci beaucoup, Gilles.